Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Maître Arnaud Anderson, collègue de Maître Mongeon chez Desroches Mongeon, avocat. Comment ça va,
Arnaud? Salut Arnaud.
Ça va super bien, vous?
Ça va très bien. Je suis content cette semaine que tu sois là parce qu'on va parler de Formule 1, c'est ton sport. juste ouais. Avant, on donne toujours là, une indication qui va être au podcast à 2 mètres que vous faites chez Desroches Mongeon Avocat cette semaine.
Oui, ben le sujet de la semaine là, au podcast à 2 mètres de Sophie, c'est la SAC et l'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Donc, Sophie et son invité de la semaine, là, Maître Marc Bellemare, un ancien ministre de la Justice qui pratique le droit social comme nous, mais à Québec, là, vont parler du nouveau projet de loi 22 modifiant la loi sur l'assurance automobile. Donc, ils vont répondre à toutes vos questions sur le sujet. C'est un rendez-vous là, à ne pas manquer sur la plateforme YouTube de A2Mètres ce jeudi à 19h30.
Ça va changer un peu de No Fault, j'ai l'impression. Alors, en Formule 1, parlant de No Fault, en Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn en fin de semaine, ça commence enfin. Il y aura un absent sur la grille de départ, mais je dirais pas un absent de taille. Nikita Mazepin, le Russe, qui a vu son contrat avec l'écurie Haas être résilié la semaine dernière.
Voilà, c'est ça. Pas un absent de taille en raison de ses performances très médiocres, mais une absence chargée d'un certain poids politique là quand même. Donc très rapidement, pour les gens qui ne connaisseraient pas Mazepin à la maison, Nikita Mazepin, c'est qui? C'est le fils d'un oligarque russe, Dmitri Mazepin, un ami de Vladimir Poutine, propriétaire de la société russe Uralkali, qui fabrique des produits chimiques et de l'engrais. Nikita Mazepin avait été médiocre en F2, mais malgré tout, il a réussi à se dénicher un poste en F1. Comment? Vous le savez, la F1, c'est un sport qui est vraiment basé en fonction du financement. Et Haas avait un besoin criant d'argent. Et donc, 1 plus 1 égale 2, Mazepin arrivait avec l'argent de papa et de Uralkali et on lui a donné un siège en F1. Donc, l'année passée, Nikita Mazepin a eu une saison horrible. Les pilotes disaient même qu'il était dangereux tellement il était pas bon.
Et comme on voit dans Drive to Survive, lui, il blâmait sa voiture puis il s'est dit « Je vais avoir la voiture de Mick Schumacher qui est mon coéquipier. Sinon, mon papa retire son financement. » À peu près, je vais résumer là, l'épisode 4. Ah,
c'est exactement ça. Mais là, arrive l'invasion de la Russie là, en Ukraine dans les dernières semaines. Et les Mazepin, en tant qu'oligarque russe, là, ils ont été mis sur la liste des personnalités russes sanctionnées économiquement par l'Union européenne. Et là, Haas, ils ont eu comme réaction de rompre immédiatement le partenariat avec Uralkali. Et donc, étant donné que le jeune Mazepin n'était pas là pour ses talents, mais pour l'argent à papa, ils ont résilié son contrat pour le remplacer là, par le pilote danois Kevin Magnussen qui était chez Haas auparavant. Et c'est là qu'arrive l'aspect légal qui est intéressant pour la chronique, c'est que la FIA, à l'origine, elle avait décidé d'autoriser les pilotes russes à participer sous un drapeau neutre, mais finalement, le contrat de Mazepin, il a été résilié malgré tout. Puis là, Mazepin est sorti, il a dit « C'est injuste, mon contrat s'est fait résilier unilatéralement, vous n'avez pas pris en compte les directives de la FIA. » Donc, Mazepin a dit qu'il considérait là, poursuivre Haas pour congédiement injuste. Mais c'est là que la bagarre légale elle risque de jouer, c'est que la FIA avait sorti un document avec 10 clauses là, qui disait en gros que les pilotes russes devaient ouvertement accepter les principes de paix et neutralité, de reconnaître l'engagement fort de la FIA pour soutenir le peuple ukrainien. Donc ce que Mazepin dit, c'est qu'il a reçu le document en soirée, qu'il a pris le temps d'analyser parce qu'il y avait des conséquences pour lui et que sans même qu'il ait le temps de dire oui ou non, le lendemain matin, Haas a résilié son contrat. Donc là, Uralkali aussi, il n'était pas content. Et ils ont dit qu'ils entendaient poursuivre là, Haas et demander le remboursement immédiat de toutes les sommes qu'ils avaient données à Haas pour la saison 2022.
C'est quand même spécial qu'on force à des gens de prendre position pour qu'ils puissent continuer d'exercer leur métier. Mais je comprends que la position ici, c'est une position pour la paix. Là. Personne veut être pour la guerre. Là. Mais c'est quand même spécial, ce genre de clause-là. Je sais que c'est pas la seule place où on le demande. On y songe aussi dans le tennis, hein, de forcer les raquettes russes à être contre la guerre actuellement et le dévoiler pour pouvoir continuer de jouer. Ça crée des précédents un peu spéciaux.
Voilà, et justement, dans l'analyse, là, si ça se rend devant les tribunaux, qui va devoir être fait, ça va être de dire, est-ce que... c'est ce que Haas risque d'argumenter, c'est que par le fait même que Mazepin, c'est pas n'importe quel Russe, là, son père est oligarque. Là. Donc, il risque de dire que juste par le fait même de cette oligarchie, nécessairement, il ne respecte pas les 10 clauses. Puis c'est sûr aussi qu'il faudrait voir le contrat à Nikita Mazepin. Est-ce qu'il y a une clause de terminaison? Probablement pas, mais les contrats en F1, ils sont particuliers des fois. Là, je vous parle du contrat de Charles Leclerc avec Ferrari, là, le pilote monégasque. Lui, dans son contrat, il y a une clause de terminaison à son avantage.
Okay.
Donc, si Ferrari n'arrive pas à terminer dans le top 3 du championnat des constructeurs, Leclerc peut résilier son contrat sans pénalité et aller négocier avec une autre écurie.
Donc, obligation de performance chez Ferrari, il faut qu'on lui donne une bonne voiture.
Ah, voilà. Ouais.
Okay. Et ça, on voit que c'est très différent à d'autres ligues professionnelles. Là, en ce moment, je pense à la NFL, ou dans la situation de Devante Adams, le receveur de passe étoile là, des Packers de Green Bay, où on voit que c'est beaucoup plus compliqué là, de se départir des liens qui rattachent à son équipe. Adams, lui, là, rapidement, il s'est fait mettre sous l'étiquette du joueur de concession, plus communément appelé là, le franchise tag en anglais. C'est un système, en effet, là, pour retarder l'autonomie complète des joueurs en les mettant sous les termes d'un contrat de 1 an là, avec des clauses particulières. Et Adams, en ce moment, lui, ce qu'il veut, c'est être le receveur de passe le mieux payé de la Ligue et avoir un contrat à long terme. Mais lui, il n'a pas la clause de résiliation là, comme Leclerc. Donc, lui, son seul outil de négociation, c'est de dire « Moi, je ne jouerai pas sous le franchise tag. Je ne me présenterai pas. » Un petit peu là, comme Le'Veon Bell des Steelers avait fait il y a quelques années. Tout ça pour dire que, bon, la situation de Adams et de Leclerc sont différentes, mais que contractuellement, ça va être intéressant là, de voir ce qui va se passer avec le contrat de Mazepin et... ça pourrait se retrouver devant les tribunaux.
Et devant les tribunaux présentement, c'est pas le seul russe à vouloir contester. Il y a la Fédération de soccer russe qui a saisi officiellement le tribunal arbitral du sport, le TAS, pour contester leur exclusion des équipes. On rappelle, en mars, ils devaient jouer des matchs barrages pour être qualifiés ou non à la Coupe du Monde. Et comme on les a exclus, eh ben, l'équipe qu'ils devaient affronter passe au prochain tour. Et bref, la Russie ne sera pas à la Coupe du Monde au Qatar en raison de l'invasion russe en Ukraine. Alors, le TAS est saisi du dossier. Alors, quelle est la suite?
Dans le fond, ce que le tribunal va faire, c'est regarder dans les règlements, là, au-delà de toute considération politique, si légalement, est-ce que bon, les décisions de la FIFA et de l'UEFA, est-ce qu'elles sont justes là, d'exclure la Russie? Puis là, dans l'état actuel des choses, le TAS va faire face à une situation qui est un petit peu inédite parce que dans les règlements des organisations sportives internationales, il n'y a pas de clause de guerre. L'argument là, sur lequel ils se sont basés, c'est sur une clause de force majeure qu'il y a dans les règlements internes de la FIFA et de l'UEFA. Donc, aux articles 30 de l'UEFA et 31 de la FIFA, il y a une clause d'exclusion de portée générale qui permet d'exclure une nation ou de prendre quelconque décision envers une équipe en cas de force majeure.
OK.
En droit québécois, là, c'est quoi de la force majeure? C'est très reconnu, c'est même codifié là, au Code civil à l'article 1470. C'est quand on parle d'un événement qui est étranger, imprévisible et irrésistible. Par exemple, là, pendant la crise du verglas, un locataire qui disait à son locataire qu'il lui paye l'électricité, mais que là, ben, à cause des pannes de courant, ne pouvait pas lui donner l'électricité, ça a été reconnu là, comme de la force majeure. Donc, au final, là, le TAS, ici, c'est sûr que la responsabilité de prendre en compte le pouls de la société, mais c'est pas un tribunal politique. Puis leurs décisions vont devoir être basées là, sur des considérations purement juridiques. Donc, c'est sûr, ils vont analyser, bon, est-ce que la clause de force majeure, elle est bien utilisée? Ils vont évaluer la sécurité des athlètes et ils vont aussi regarder le fait que les règlements, ben, ils parlent quand même d'articles là, de la promotion de la valeur d'universalité et de la paix dans le monde. Donc, ça va être très intéressant de voir le débat devant le tribunal.
Et en terminant, tu voulais nous parler du sport. On s'en sert présentement beaucoup à l'échelle mondiale. Tu sais, il y a plusieurs sanctions économiques envers la Russie. Il y a énormément de sanctions sportives.
Tout à fait. Donc, ce qu'on voit en ce moment dans le sport, au final, c'est que le sport, c'est un incroyable outil là, de soft power.
Qu'est-ce que tu veux dire par soft power?
Voilà, le soft power, c'est un concept en politique là, qui parle du pouvoir de persuasion par lequel un pays, de manière non coercitive, là, donc pas comme la Russie en ce moment en Ukraine, sont capables de convaincre les gens de voir les choses de la façon dont ils veulent.
Façon non violente de donner une claque à la gueule. Bref, là.
Exactement. Ou ben, d'utiliser le sport là, comme un symbole, tu sais, pour la construction d'une image, pour renforcer la confiance des gens. Puis quand je dis ça, là, je pense directement bon, aux Jeux olympiques de Beijing il y a quelques semaines,
oui.
À la Coupe du monde au Qatar dans quelques mois.
Tous les Grands Prix de Formule 1 dans les pays.
Le Grand Prix d'Arabie Saoudite dans 2 semaines.
Ah, mais il y en a une tonne. Hein, mais même Bahreïn en fin de semaine. Là.
Tout à fait.
Mettez Bahreïn puis droit de l'homme dans Google pour le fun. Là.
Voilà. Ouais. Puis aussi, d'un point de vue historique, là, on peut penser par exemple à la victoire improbable de l'équipe américaine en 1980 aux Jeux olympiques de Lake Placid contre l'Union soviétique, où ça avait eu un poids incroyable là, pour les États-Unis, cette victoire-là contre l'Union soviétique.
Ben ouais. En boxe, le week-end dernier, l'Ukrainien qui se battait contre un Vénézuélien qui était pro-russe et pro-invasion de l'Ukraine, là, le sport est chargé des fois beaucoup plus qu'un simple match.
Et surtout, donc ces sanctions-là, c'est peut-être pour empêcher au final là, la Russie de potentiellement rayonner à l'international. Je veux terminer rapidement la chronique sur une note plus positive. Le soft power, ça peut aussi aider dans la lutte contre le racisme et dans les mouvements sociétaux. On l'a vu là, par exemple avec Colin Kaepernick dans la NFL.
Oui.
Mais moi, une de mes anecdotes sportives préférées, c'est ce qui s'est passé à la Coupe du monde de rugby en 1995. Je vous l'explique rapidement. Donc, en 1995, l'Afrique du Sud organisait la Coupe du monde de rugby. Et Nelson Mandela, il venait là, de commencer son mandat en tant que président.
Il y a un film là-dessus, là.
Et voilà. Et donc, en 1995, le rugby, c'était vraiment le sport des Afrikaners blancs, alors que le soccer, c'était le sport préféré par la population noire. Et justement, la population noire en Afrique du Sud avait fini par détester les Springboks, l'équipe de rugby sud-africaine, parce qu'ils associaient à l'apartheid et à l'oppression blanche. Donc, elle est même au match uniquement pour huer les Springboks. Nelson Mandela, malgré tout, il a vu l'opportunité d'avoir un sentiment d'union nationale derrière les Springboks. Et donc, il a demandé au capitaine de l'équipe des Springboks il fallait absolument qu'il gagne la Coupe du monde afin de rallier tout un peuple.
Ça, c'était Matt Damon, le capitaine.
Hein, exactement, okay, avec Morgan Freeman qui jouait
Nelson Mandela, c'était Morgan Freeman.
Voilà. Oh, ouais. Et Invictus. Un petit peu comme à Montréal, quand le Canadien va en série, on voit tout un sentiment d'union là, derrière le Canadien. Tout le monde se rassemble malgré les différences là, pour être derrière le Canadien. Puis là, justement, un scénario d'Hollywood, justement, qui a été fait en film par la suite, là, les Springboks, qui n'étaient pas du tout favoris, ont fini par gagner la Coupe du monde dans un stade rempli de noirs, de blancs, qui chantaient le nouvel hymne national sud-africain qui parlait de réconciliation et de nation arc-en-ciel. Donc, c'est ça le pouvoir du sport là, par moment.
Vive le sport, comme dit le rapper. Merci beaucoup, Arnaud Anderson.
Merci à vous.
Une très belle chronique, très belle exposée et bonne semaine.
Bonne semaine à vous, les boys.